Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie, Richard Haddad au micro, avec Pierre-Henri, comme tous les lundis, à 17h.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver.
Au programme aujourd'hui, deux sujets, forts avec les faibles et faibles avec les forts. Il s'agira de parler de nos dirigeants, comme toujours.
De l'État, de nos institutions régaliennes.
De la police, de la justice, des...
Du canal Saint-Martin, on en parle beaucoup
RATP,
en ce moment.
De tout. Et puis, des impôts, de tout. Et donc, deuxième sujet, le traité de paix signé vendredi dans la nuit à l'heure de Paris, mais l'après-midi à l'heure...
Vendredi
de...
26 juin, précisons.
26 juin, oui, pardon.
Ouais, 26
oui,
juin.
Vendredi 26 juin. Donc ça fait un moment... On en parle parce que personne n'en a parlé, hein. Personne n'en a parlé, parce que l'actualité est tellement riche, entre ce qui se passe en Ukraine, Ukraine-Russie, Iran, États-Unis, ça s'est passé un peu inaperçu.
C'est malheureusement passé à l'as, alors que c'est quand même très important, y compris pour la session de négociation entre l'Iran et les États-Unis. Parce que l'Iran, on va en reparler tout à l'heure, fait du Liban et du Hezbollah une espèce d'enjeu ou de critère.
Exactement. Donc il y a eu un traité de paix...
assez historique. Hein.
C'est pas encore mis en œuvre. C'est un traité de principe avec 15 ou 17 points. Enfin bon, on en parlera. Mm-hmm. Bon, commençons déjà, Pierre-Henri, par cette formule.
Ouais.
Le fort avec les faibles que l'on sort souvent. Fort avec les faibles, faible avec les forts.
Il s'agit de. Justice à deux vitesses. Là, c'est même plus une justice à deux vitesses, c'est un état à deux vitesses.
C'est un état à deux vitesses, voilà. Parce que ce qui se passe. Bon, c'est emblématique ce qui se passe au canal Saint-Martin à Paris.
Ouais.
Alors rappelons, c'est le canal qui traverse le 10e arrondissement de Paris.
Jusqu'à la place de la Bastille, en gros.
Voilà, c'est ça. Et qui est devenu... C'était un quartier... d'abord, c'est un endroit de Paris... Enfin, c'est l'est de Paris, donc c'est censé être populaire. Mais il y a des endroits comme ça, il y a des îlots dans les quartiers populaires qui sont des îlots qui étaient hein, des havres de paix et par là même qui étaient devenus des îlots un peu bourgeois dans des quartiers populaires. Je pense par exemple à Montmartre qui est en plein 18e arrondissement, pas très loin de Barbès, et pourtant Montmartre c'est un quartier extrêmement cher parce que
oui,
c'est le quartier des artistes, des acteurs, etc. Donc le canal Saint-Martin dans le 10e était considéré un îlot bourgeois du 10e arrondissement. C'était un endroit plutôt sympathique parce que justement il y a ce canal qui passait par là où on pouvait se mettre à côté comme une sorte de bassin.
Oui.
Et donc c'était considéré comme un
lieu de loisirs aussi parce que ça attire énormément de jeunes, énormément d'étudiants, de lycéens qui viennent aux abords dès qu'il fait beau. Alors bien évidemment ça entraîne parfois un peu de nuisances sonores et quelques excès d'alcool, le moins qu'on puisse dire.
Oui.
Mais ça restait en effet un îlot assez gentrifié.
Moi je connais un peu parce que j'ai un ami qui habite devant le canal Saint-Martin il y a 30 ans, je peux vous assurer qu'en dehors de... en hiver, au printemps, c'était très très calme. Aujourd'hui, le canal Saint-Martin... Alors, ça fait quelques années que les migrants s'étaient installés autour.
Oui.
Avec des tentes.
Oui, oui.
Voilà, des tentes
vers
des
la Bastille
côtés.
Aussi, mais ils ont été régulièrement chassés.
Oui, ils sont revenus. Enfin, quand je dis les migrants, ce n'est pas les migrants qui viennent s'installer au canal Saint-Martin parce qu'ils ne le connaissent pas. Ce sont les associations subventionnées par la mairie de Paris et par le gouvernement
et
aussi.
Et par le gouvernement, et par la région.
Et par la région, voilà. Et par tout le monde, par la gauche et la droite, hein,
ouais.
Par la gauche et la droite, qui viennent les installer là. Et aujourd'hui, alors moi je m'étais arrêté à ça, autour du canal Saint-Martin, il y a plus, selon les mois, il peut y avoir des tentes de migrants. C'est comme ça.
Évidemment, mais là il n'y a même pas besoin des tentes
là,
de migrants.
J'ai découvert que le canal Saint-Martin est devenu une piscine pour les rejetons des migrants.
Oui.
Voilà. C'est devenu une piscine où l'on s'amuse, où on saute. C'est la fête à neuneux.
Alors oui, c'est Aqualand, hein, c'est Aquaboulevard.
Aqualand, oui, c'est ça.
Vous savez
pour migrants.
Pour migrants. C'est un peu la même chose d'ailleurs aux zones frontalières, parce qu'il y a eu des incidents en Allemagne la semaine dernière, à Kiel, avec une cinquantaine de Maghrébins venus de France, qui ont pris d'assaut la piscine en escaladant les clôtures, enfin sans payer leur place, bien évidemment, et qui ont complètement mis le bazar à l'intérieur, gêné, voire agressé certains nageurs tranquilles. Et il y a très souvent aussi la même chose en Suisse. C'est-à-dire que toute la racaille qui vient de France, d'Annecy, d'Annemasse, etc., passe du côté suisse et puis va faire des espèces de razzia sur des lieux de loisirs. Donc ça peut être des bases aquatiques, ça peut être des piscines. Et puis là, c'est le canal Saint-Martin, c'est exactement le même principe. Ça devient une espèce de forteresse qui est prise d'assaut par parfois des gamins de 10-12 ans. On va parler de l'espèce de...
Il y a tous les âges. J'invite les auditeurs à regarder, c'est très facile à trouver sur Internet, les vidéos, parce qu'il y a des journalistes de Boulevard Voltaire,
oui, qui sont allés
de Frontières,
News,
Boulevard Voltaire, qui ont filmé, qui ont interrogé ces jeunes, voilà. Donc il y a tous les âges. Mais alors, c'est bruyant, ça applaudit, ça saute, tout ça est interdit. Hein. Ils grimpent sur des ponts, ils sautent des ponts dans le canal.
Il y a déjà eu des
noyades. Il y a de la drogue, ouvertement, devant tout le monde.
Il y a une vidéo, en effet, qui a été prise, je crois, par des journalistes de Frontières, où on voit plusieurs, mais comment on dit, jeunes, bon, là,
des gamins,
des gamins, en train de sniffer des rails de coke
sur des
téléphones portables.
Ouais, ouais. Des gamins de 14-15 ans en train de sniffer de la cocaïne, devant tout le monde. Il y a la police qui passe.
Mais alors, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi des rues qui sont parfois bloquées, puisqu'ils se mettent à 10, 20 ou 30 pour bloquer les...
C'est ça, c'est là où on va en venir. Voilà. C'est qu'il y a une équipe, mais il y en a un qui est devenu à la star un peu sur Internet, mais il n'est pas le seul. Alors effectivement, allez-y, racontez Pierre-Henri, parce qu'il ne s'agit pas juste de nager dans le canal.
Non,
c'est qu'ils ont fait de ce quartier... leur quartier,
ouais,
souverain. Alors on rigole lorsqu'on voit ça, je vais vous laisser raconter ce qui se passe, mais en fait ce n'est qu'un prémisse. C'est qu'on rigole, ils taxent les voitures qui passent, mais en fait ils considèrent que c'est leur territoire, et à partir du moment où c'est leur territoire, eh bien le type se fait appeler la douane,
oui,
parce qu'il impose les gens. Allez-y, racontez.
Mais c'est exactement ça, ouais. En fait vous avez donc une espèce de gamin qui est un Algérien né en Espagne, qui a 14 ans.
Donc expulsable.
Qui est gras comme un loukoum.
Enfin, ses parents sont expulsables.
Et qui a visiblement fini son année d'école, qui est toute la journée...
Enfin, je suis pas sûr qu'il allait trop à l'école. Hein.
Oui, alors,
dit,
vu bon. Sa maîtrise du français, c'est douteux.
Pardon,
en effet.
Ça fait un mois qu'il fait ça. Cette affaire, il a été médiatisé fin juin. Et ça faisait un mois qu'il faisait ça. Enfin, à ma connaissance, l'école ne s'arrête pas fin mai.
Ouais,
non,
au collège quand même, c'est un peu tôt.
Ouais. Donc, je suis pas sûr qu'il aille trop à l'école.
Il déambule toute la journée le long du canal Saint-Martin.
Torse nu, ce qui est interdit.
Il gêne les automobilistes, il les arrose, il arrose les passants, il bloque les vélos avec ses copains, et puis il exige 2 euros, ou alors ceux qui refusent de payer sont arrosés et gênés, persécutés, bousculés. Et donc,
il a poussé, pardon de vous couper... il a attrapé une femme qui longeait le canal Saint-Martin, et il voulait la racketter.
Oui.
Il l'a poussée dans le canal.
Tout à fait. Il en a tiré une autre par les pieds alors que lui était déjà en train de nager dans le canal. Oui. Il a été. Mais en fait, c'est tout et n'importe quoi. Vous savez, cette histoire, ça nous rappelle vraiment l'épisode Leonarda.
Oui.
Vous vous souvenez de cette robe du Kosovo.
Comment l'oublier?
Qui avait fait 2 semaines d'actualité, qui avait reçu quasiment la visite de François Hollande ou qui avait échangé par
voie de presse. Parler avec lui.
Voilà. Et en fait, on a notre Leonardo du Maghreb, qui est en fait une espèce de parasite qui passe sa journée à nuire aux honnêtes gens, qui pousse des gens dans le canal, alors qui visiblement aussi pratique le vol à l'étalage en se filmant. Alors ça, c'est le sommet d'intelligence dans ce domaine-là.
Vous avez évoqué le mot razzia. Pour lui, rentrer dans des épiceries volées et se filme parce qu'il en est fier, parce qu'il fait... C'est un guerrier. Vous savez, on parlait de l'Ukraine. Les guerriers, maintenant, ils mettent des caméras sur leur casque pour montrer leur bravoure.
Ouais.
Et donc, lui, il montre à ses
corps-légionnaires
qu'est-ce qu'il est capable de faire contre les mécréants.
À 14 ans, et en surpoids, voilà. Mais en fait, donc, il a fait un petit séjour en garde à vue, quand même, dont il est ressorti sans rien, bien évidemment.
Ouais,
parce que voilà, il a la carte joker, parce qu'il a 14 ans, donc rien de rien, pour quand même violence en réunion, parce qu'il n'est pas tout seul. Ils sont des dizaines de 10 à 30 ans, tous de la même origine ou de la même pratique culturelle et religieuse, et qui sont là, en fait, à exercer leur domination sur cette portion de Paris. Et bien évidemment, si jamais il venait à l'idée d'un automobiliste ou d'un cycliste ou d'un passant de torgnoler ce petit loukoum, il y en aurait 30 qui viendraient tout de suite pour lyncher le récalcitrant. Donc c'est pour ça que ça ne se passe bien, c'est pas... Et puis, où sont les parents ?
Non, ça ne se passe pas bien, je voulais dire par là qu'il n'y a pas de morts et de blessés.
Non, ça se passe bien parce que en fait, ça se passe comme ça. Le racket se passe très bien et on laisse faire.
La police fait. Il y a des rondes de la police. On les voit dans les vidéos d'ailleurs. Ils passent, ils font semblant de pas voir. Et quand ils interviennent, ils essayent de calmer le jeu. Pire que ça, certains policiers au départ
se sont arrosés, sans rien dire.
Non, mais même ils rigolaient, ils jouaient avec lui. Bon, c'est pour ça qu'on parle de deux poids deux mesures, parce que moi, si j'arrose la police.
Oui.
De dos.
Ils vont peu rigoler,
ils vont
je pense.
Rigoler.
C'est, voilà. Vous comme moi, on n'a pas la tête pour susciter leur rigolade.
Si dans Paris Ouest, un monsieur en cravate vient arroser la police, je peux vous assurer qu'il rigolera pas du tout.
Il finit au poste et il prendra au minimum outrage ou quelque chose comme ça.
Il paiera son amende.
Et il paiera. Voilà. Donc là, en plus, on a les parents, parce qu'imaginez-vous qu'il a des parents. On pensait que c'était Rémi Rémi, non pas sans famille, mais Hamza sans famille ou Abdel sans famille. Là, les parents ont été débusqués par des journalistes et disent non, en fait, que tout est normal. Au moins, il sort, il est à l'extérieur, il fait rien de mal, il rigole. Aussi, et les gens rigolent avec lui.
Lui aussi, on lui a dit, mais tu penses que tu. Il dit, mais non, j'ai rien fait. C'est le seul mot qu'il a à la bouche, c'est « j'ai rien fait, c'est rien ».
Alors, j'ai rien fait, mais surtout,
je rigole.
Ceux qui contestent sont des racistes, et d'ailleurs qu'ils aillent un leur maman, c'est ce qu'il dit justement, filmé ce qu'il répond aux journalistes de Frontières qui l'interrogent.
D'ailleurs, on voit bien qu'il maîtrise parfaitement la langue française, parce qu'il dit « je vais ouvrir les guillemets
».
Il dit « les racistes, ils ont tout mon respect, mais, comme vous dites, ils les insultent. »
Oui, voilà.
Mais si ils ont ton respect, jeune homme, tu les insultes pas ou vice-versa.
Bah, exactement. Et en fait.
Alors en fait, c'est des expressions du tout mon respect.
Mais exactement.
En fait, il s'est même pas formulé.
En fait, ce que ça montre, c'est que mais ça on le sait depuis longtemps, mais on va le répéter pour faire de la pédagogie. L'accusation de racisme, ce n'est en fait qu'une espèce de talisman qu'on va vous opposer pour laisser passer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous commettez un délit. Vous commettez un crime, ce qu'on appelle des incivilités, vous vous comportez n'importe comment, et bien si on vous reprend et qu'on vous dit que c'est pas bien ou que c'est illégal, c'est vous qui êtes raciste. C'est uniquement en fait l'immunité dont veulent bénéficier les délinquants et les criminels, et je vais y revenir après la pause
Après
le Bobino.
On aura 2-3 minutes sur ce sujet et on passera à l'autre.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors on reprend, Pierre-Henri, vous vouliez dire quelque chose sur cette
parce
affaire
Parce qu'en fait, ce gamin-là, qui a 14 ans, qui n'a que 14 ans, passe ses journées à commettre en fait des infractions et des délits, les deux. Vous savez que dans l'ordre du pénal en France, vous avez l'infraction qui est la plus petite rupture que l'on peut commettre par rapport à la loi, puis vous avez le délit, puis vous avez le crime. Lui, il commet infraction et délit tous les jours. Les deux. C'est-à-dire que ça peut être des agressions verbales, voire physiques, puisque c'est pour ça qu'il est parti en garde à vue. Il a, paraît-il, suivi une femme jusque dans l'intérieur de son domicile en l'insultant, en la traitant de pute, de raciste, etc. Entre autres choses, vol à l'étalage. Et ça, en fait, quand c'est votre quotidien, quand vous avez 14 ans...
Pour vendre de drogue.
Ah bah en plus, et il commence tôt.
Donc
vous voyez, quand c'est votre quotidien, quand vous avez 14 ans, quand c'est votre norme, et quand en plus vos parents viennent en rajouter en disant qu'il fait rien de mal et tout le monde rigole avec lui, dans 5 ans, ça devient quoi? Il passe au crime. Dans 5 ans, en fait, quelqu'un qui est habitué depuis son plus jeune âge à l'infraction et au délit, c'est potentiellement un sociopathe en herbe, c'est-à-dire quelqu'un qui plus tard, eh bien, rejoindra la DZ mafia ou un équivalent.
C'est la politique du tout permis. Il s'est habitué. On habitue des gamins au fait qu'ils ne craignent rien, quoi qu'ils fassent.
Et comme il n'y a aucune répression, eh bien, forcément, ceux qui sont enclins par l'inné, par l'acquis ou par un mélange des deux à être des sociopathes le deviendront avec d'autant plus de facilité qu'à aucun moment une institution publique régalienne ne leur aura mis, à minima, une tarte dans la figure. À minima.
Alors, on parle de ce jeune de 14 ans, mais il n'est pas le seul. Je rappelle qu'ils
sont
des dizaines. Alors, tous ces gens... Personne ne se pose la question de savoir où ils vivent. Parce que je peux lancer un pari qu'ils vivent dans des logements sociaux, payés par nos impôts.
Ouais.
On ne sait pas s'ils ont des papiers ou pas, et s'ils en ont, on se demande pourquoi on leur donne des papiers. Parce que ce gamin est né en Espagne, qu'est-ce qu'il fait en France, etc. Donc, ils vivent aux frais du contribuable. pour venir racketter le contribuable, le gêner, l'agresser, etc. Et que fait la police? Que fait le maire de Paris? Le maire de Paris va le saluer en rigolant.
Ouais.
La police rigole avec lui, et quand il rigole pas, ils disent « Ah ben, on peut rien faire parce que la justice le libère. » Or, que ça soit le ministère de l'Intérieur, que ça soit la justice, les préfets qui n'ont, comme je l'ai dit la semaine dernière, du temps que pour faire des arrêtés nous interdisant d'acheter une bouteille de vin vendredi soir.
Voilà.
Tous ces gens sont extrêmement sévères avec nous et extrêmement laxistes avec ces gens-là.
Faibles avec les forts, forts avec
les
faibles.
Parce que nous sommes solvables, c'est-à-dire que vous et moi...
Et on est, avant d'être solvables, d'ailleurs, on est bien élevés.
On est bien élevés.
On est civilisés.
Donc, ils ne risquent rien de nous arrêter, parce que nous, on ne va pas leur mettre une baffe dans la figure.
Vous savez que notre civilisation chrétienne et occidentale, c'est à peu près 2 millénaires, voire plus d'ailleurs, parce que ça commence avant, quand on regarde vraiment les grandes civilisations. Allez, on va dire 3 millénaires, à domestiquer la population humaine sur ce territoire. Mais domestiquer, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps et c'est parfois très brutal. C'est-à-dire, pour en arriver à un degré de civilisation qui fait que depuis à peu près le 19e siècle et le 20e siècle, on vit dans des sociétés où il y a moins de 10 meurtres en moyenne pour 1000 habitants, alors qu'au Panama, on est à 50 et en Afrique du Sud, on est à 80. Ça prend en effet des siècles. Des siècles de, en fait, de travail de l'Église sur la morale, etc. etc. Et donc, en fait, on en arrive à avoir dans notre inconscient collectif et individuel, la peur du gendarme ancrée en nous. On sait pertinemment ce qu'est une infraction, un crime et un délit. Et que si on enfreint cette règle, on s'expose.
Oui, mais croyez-moi qu'ils le savent chez eux. Hein, parce que chez eux, c'est pas tout à fait la même chose. Que
oui, mais comme ils
pas
sont
moral,
pas chez eux,
c'est la crainte de
d'être lynché
par la police. Alors là, ils se prennent des coups de matraque.
Et chez... que les auditeurs ne pensent pas qu'on blague. Moi, il se trouve que j'ai vécu au Sénégal. Au Sénégal, vous avez à Dakar, vous avez un marché qui est très connu pour les touristes, qui s'appelle Soumbé Dioune. Juste à côté, vous avez le marché pour les locaux qui s'appelle Goltapé. D'ailleurs, le nom est assez ironique. Quand vous avez un voleur à l'étalage qui se fait prendre, il est tué. Il n'y a aucune enquête, je le sais, j'en ai été quasiment témoin. Et toutes les semaines, vous avez des faits divers comme ça. Donc on ne rigole pas. Là-bas, si vous enfreignez la règle, je ne dis même pas la loi, ou c'est celle de la charia, vous êtes pris et volé, on vous coupe la main. Mmh. C'est aussi simple que ça. Mais ici, c'est open bar, pardon
non,
pour l'anglicisme.
Ici, heureusement, Dieu merci, on ne coupe pas la main aux gens qui commettent une faute, parce que c'est notre morale chrétienne. Mmh. Mais, encore une fois...
Parfois ça démange, mais bon.
Oui, mais il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que la loi, la morale, etc. est appliquée à l'homme...
bien élevé et solvable.
Bien élevé et solvable. D'ailleurs, alors, pour conclure ce sujet, on leur donne... Vous savez, que ce soit les policiers, que ce soit un contrôleur de la RATP, qui que ce soit, ils sont rodés à viser l'homme solvable et poli. Parce que, un, il y a d'une pierre deux coups. Un, ils ne prennent pas de risque parce qu'il ne va
physique,
pas les agresser.
Voilà.
Et deux, ils payent. Vous êtes un immigré à moitié à poil, vous faites pipi, pardon, sur le quai, hein, ou sur les gens carrément.
Qu'il n'est pas solvable et il peut devenir agressif.
Et puis la peur.
Voilà.
Voilà. Donc c'est le sujet clos. On vit, c'est ça notre société. C'est nous sommes là, les vaches à lait.
Voilà, c'est toute cette partie, c'était encore...
C'était tolérance zéro pour nous.
Mais toujours. C'est une illustration, vous savez, on en parle souvent dans cette émission, de l'anarcho-tyrannie, et c'est vraiment ce que le thème de l'émission, fort avec les faibles et faibles avec les forts.
Alors,
on va peut-être passer au deuxième sujet.
Deuxième sujet.
L'accord.
Donc, l'accord, il y a maintenant 8 jours.
Oui, 26 juin.
Alors,
hein,
ça fait un moment que, sous l'égide des Américains, l'État libanais, alors je dis État entre guillemets, parce que alors, je sais que certains
m'en voudront. Ce qui en tient lieu.
Certains m'en voudront, mais moi j'appelle un chat, désolé.
Et donc, là c'est difficile d'appeler ça
d'appeler ça un État depuis qu'il existe d'ailleurs, il n'a jamais vraiment existé. Bon, enfin officiellement c'est un État, mais qui n'a aucun pouvoir sur rien. Et donc l'État libanais négocie avec l'État israélien. C'est drôle parce qu'il y a deux États qui négocient, mais qui en fait on se demande qu'est-ce qu'ils négocient, parce qu'ils ne se sont jamais pratiquement fait la guerre. Je dis jamais, parce qu'ils se sont fait la guerre, en effet, en 48.
En 48,
lorsque
la première guerre israélo-arabe.
Ça a duré un mois, et puis ça s'est arrêté. Mm. Et puis depuis, ni Israël n'a de revendications sur le territoire libanais, ni le Liban n'a quoi que ce soit à reprocher à Israël, si ce n'est des histoires de Palestiniens, etc., qu'ils ne concernent pas. Enfin, en tout cas, l'État libanais et l'État israélien n'ont pas de conflit. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils négocient. Ben, ils négocient pour les autres, c'est-à-dire qu'autrefois c'était les Palestiniens qui étaient au Liban et qui envoyaient des missiles sur Israël, et c'est pour cette raison, je le rappelle, qu'Israël est rentré pour les chasser. Et aujourd'hui c'est le Hezbollah, qui n'est pas l'État libanais, et c'est toujours pour la même raison qu'Israël est rentré pour les éliminer. Et donc l'État libanais donc, négocie avec Israël. J'arrive vite à ce traité, bon, qui a fini par signer. Hein. Donc ils ont signé un traité qu'il reste à le mettre en œuvre. Donc qui est très, je l'ai lu en entier, et il est très très complet en fait. J'étais un peu surpris parce que je pensais que ce serait une sorte de traité de cessez-le-feu, de non-agression, etc. Non non, en fait il est très complet. C'est un vrai traité de paix qui normalise les relations entre les deux pays et dans lequel c'est très intéressant parce que ça répond à beaucoup de gens journalistes, en politique, etc. qui nous disent ah mais Israël a des visées sur le. Alors dans ce traité Israël s'engage et répète qu'il n'a aucune revendication de territoire sur le Liban. Le Liban dit que il reconnaît l'État d'Israël et s'engage à avoir le monopole des armes, c'est-à-dire parce que lui n'a jamais, l'État libanais n'a jamais tiré sur les territoires israéliens. Il s'engage à nettoyer son territoire et avoir le seul monopole des armes pour sécuriser la frontière.
C'est le grand enjeu depuis des années.
Voilà,
hein,
je résume. Mais disons, et puis normaliser les relations, c'est-à-dire abolir toutes les lois libanaises ridicules qui font que si vous, Pierre-Henri, par exemple, allez au Liban et vous avez un visa israélien sur votre passeport ou un tampon de la police des frontières israélienne, vous êtes refoulé immédiatement. Ouais. C'est totalement ridicule. Vous qui êtes français, hein. Enfin bref, voilà, tout ce genre de loi. Si un Libanais ose émettre une idée comme ça. Vous savez qu'au Liban, aujourd'hui, si vous osez dire « J'aimerais bien qu'on fasse la paix avec Israël », vous allez en prison. Ah. Alors il y a un blogueur, par exemple, musulman. Il y a un blogueur musulman qui vit à Paris, qui fait des émissions contre Hezbollah, et à un moment donné, il a dit « J'espère que l'armée israélienne va éliminer le Hezbollah ». Il s'est pris 15 ans de prison, par contumace. 15 ans de prison, pas mal quand même. Hein. Donc voilà. Donc tout ça
c'est quand même assez
aboli par ce traité. Et donc,
est-ce qu'il était attendu, ce traité? C'est-à-dire,
oui, parce que ça fait un moment qu'il négocie.
Ouais.
Voilà. Et puis, depuis cette affaire, depuis un an, depuis que Nasrallah a été tué, le chef du Hezbollah, et depuis cette guerre, malgré ces lois, en fait, souvent, l'idée qui court, c'est que tous les Libanais sont d'accord que Israël, c'est l'ennemi, comme ils disent, les militants du Hezbollah, et ils ont réussi à rajouter ça dans la constitution depuis la réforme, depuis la perte de la guerre par les chrétiens.
Les accords de Taif,
éternel. Ils appellent ça l'ennemi éternel. C'est-à-dire que ça n'existe pas, un ennemi éternel. C'est-à-dire que pour eux, c'est un ennemi. Quoi qu'il arrive,
c'est exactement la même mentalité qu'avec les Iraniens, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que.
C'est la filiale des Iraniens.
On nous fait croire que l'ensemble du peuple iranien est derrière les Pasdaran et les Mollahs depuis qu'Israël et les États-Unis ont commencé à les taper, ce qui est quand même une grande blague.
Oui, parce que moi, je vous ai raconté, j'ai un ami qui est rentré d'Iran. C'est son frère, pour être exact. Hein. Le frère d'un de mes amis vivait en Iran. Il est rentré quelques jours. Et il ne m'a pas dit du tout, ni lui, ni ses amis, qu'ils étaient proches du régime. Loin de là. Et d'ailleurs, il n'en pouvait plus.
Oui, et puis qu'il y a eu le fameux sentiment nationaliste les peuples auraient quand ils seraient attaqués par des puissances étrangères. C'est n'importe quoi. Et là, c'est pareil dans le cas du Liban.
Oui, cette erreur sur le Liban vient du fait que. Parce qu'on va interroger des Libanais et on vous dit « Ah, mais quelle que soit leur religion, ils sont quand même tous contre l'intervention israélienne.
Bah »
Ils oublient un petit fait, ce que je rappelais il y a quelques minutes, c'est que dire « Je ne suis pas défavorable à cette intervention qui élimine le Hezbollah » mérite 15 ans de prison. Alors vous savez, ça vous calme. Hein.
Ben forcément, oui.
Ça vous pousse à dire « Oui, je suis contre. »
Ça suscite l'unanimité. Hein,
voilà. Donc malgré cette loi, depuis un an, les langues se délient. Il y a de plus en plus de journalistes sur les plateaux télé, de gens dans la rue, etc., qui vous disent ouvertement « Je m'en fiche, moi j'ai envie d'aller en Israël, j'ai pas de problème avec ce pays. » C'est pas qu'ils aiment Israël plus que d'autres. C'est que pour eux, c'est un pays comme tous les autres.
Oui, c'est un non-sujet.
Ils ne voient pas pourquoi, ils n'ont pas le droit d'y aller d'abord. Et puis ils ne voient pas pourquoi cette espèce d'ennemi éternel, c'est complètement ridicule.
Il nous reste 1:30. Quelles sont les perspectives couvrant
ce traité ? J'arrive à la conclusion. Voilà. Le problème, c'est que ce traité est bien joli. Le gouvernement libanais et l'État libanais, c'est bien sympathique. Mais pour que ce traité fonctionne, il faut que le Liban, le gouvernement libanais, désarme le Hezbollah et soit ait le monopole des armes pour qu'il puisse sécuriser sa frontière et pour que les deux pays vivent en harmonie, en paix, etc. J'attends de voir comment l'État libanais va désarmer le Hezbollah. Alors, ça, vous comprenez, il promet de le faire. Mais comment voulez-vous qu'il le fasse avec une armée dont le tiers est chiite et est très sympathisant du Hezbollah? Donc, dès qu'il va lui commander d'aller désarmer le Hezbollah...
Il y aura des mutineries.
Elle se coupera en deux. Alors, il ne va pas le faire comme ça. Vous savez, dans le traité, il est prévu qu'Israël désarme, libère des parcelles de territoire...
Oui, au sud du fleuve Litanie, oui, voilà.
Se retire en les livrant propres à l'armée libanaise. Mm. Qui, elle, s'engage à les garder propres. J'attends de voir, mais je suis très sceptique, je ne vous cache pas. Parce que ce pays, multiconfessionnel, quand on dit multiconfessionnel, c'est multi-identitaire en réalité, ne peut pas exister tel qu'il est. Ça n'existe pas, les États multi-identitaires. Donc cet État n'en est pas et n'existera pas. Il faut que les chrétiens soient indépendants, les chiites soient indépendants, etc. C'est ce que je pense, et on verra.
L'histoire nous le dira. Affaire à suivre de près, bien évidemment, et on se retrouve lundi prochain, 17h, pour un nouveau numéro de Culture et Politique. Chers auditeurs.
Merci, à bientôt.
À bientôt.